Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 11 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Georges Billon.
Nous commençons par les titres.
Ethiopian Airlines, tout comme la Chine, immobilise ses Boeing 737 MAX après le crash dimanche d'un avion de la compagnie éthiopienne.
Au Nigeria, on attend toujours les résultats complets des élections au poste de gouverneur et ceux des législatives de samedi.
Les Bissau-Guinéens ont voté hier pour élire leur Assemblée nationale avec l'espoir d'une sortie de l'interminable crise au sommet de l'État.
En Syrie, l'assaut décisif contre l'ultime poche du groupe État islamique a repris.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
L'actualité reste dominée par le crash d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines effectuant le vol à Addis Abeba, Nairobi. La compagnie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait immobilisé jusqu'à nouvel ordre tous ses Boeing 737 MAX au lendemain de ce crash qui a coûté la vie à toutes les 157 personnes qui se trouvaient à bord. L'appareil s'est écrasé hier dimanche, peu après son décollage. Claire Morin-Gibou.
En s'écrasant, l'avion a creusé un impressionnant cratère, labourant la terre sur des dizaines de mètres de longueur. L'appareil s'est désintégré à l'impact. Au sol, il n'y a plus que des morceaux de carlingue éparpillés. Le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, s'est rendu sur place. Il a évoqué un jour très triste et tragique.
It is a brand new airplane with no technical remarks, flown by...
Monsieur Gebremariam a précisé qu'il s'agissait d'un avion neuf, sans problème technique connu et qu'une enquête internationale allait être menée. Le Parlement éthiopien a décrété pour lundi une journée de deuil national. Quelques 35 nationalités étaient représentées parmi les passagers et l'équipage, comme l'a confirmé le ministre des Transports kényan, James Macharia. Le Kenya, le Canada et l'Éthiopie sont les pays avec le plus grand nombre de victimes. Cet accident s'est produit à la veille de l'ouverture à Nairobi de la conférence annuelle de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Une douzaine de personnes employées par l'ONU ont péri dans le crash.
C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un Boeing 737 MAX 8 s'est écrasé quelques minutes après son décollage. La sécurité de cet avion central dans la stratégie du constructeur américain est désormais remise en question, la Chine devenant le premier pays à le clouer au sol, suivi aussitôt par l'Éthiopie. Le bureau chinois de l'aviation civile a précisé que la mesure entre en vigueur ce lundi afin de garantir la sécurité des vols.
Fin octobre, c'était un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'était, lui, abîmé en mer de Java, tuant 189 personnes. Il s'agit du même avion. Comme pour Lion Air, l'accident d'Ethiopian Airlines s'est passé très peu de temps après le décollage et les pilotes ont émis des messages pour dire qu'ils étaient en difficulté. Puis, il y a eu perte de l'avion. Il est difficile de dire que cela ne ressemble pas au premier accident, concède un expert aéronautique qui a requis l'anonymat.
Pour l'heure, le pilote a mentionné qu'il avait des difficultés et qu'il voulait rentrer. Et il a eu l'autorisation de faire demi-tour et de repartir vers Addis Abeba, a indiqué le PDG d'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba. On sait en outre que les conditions météo étaient bonnes dimanche matin à Addis Abeba et dans le paysage aérien, Ethiopian Airlines est considéré comme une compagnie sérieuse. À noter enfin que le PDG d'Ethiopian Airlines n'exclut aucune hypothèse quant à la cause de l'accident d'hier.
Direction le Nigeria, on attend toujours les résultats complets des élections au poste de gouverneur et ceux des législatives de samedi. Quelques 72 millions d'électeurs étaient appelés à voter dans 29 des États, des 36 États du pays. D'Abuja, le point avec Gilbert Tamba.
Après la présidentielle qui a vu la réélection il y a deux semaines du sortant Muhammadu Buhari, les Nigériens étaient à nouveau appelés aux urnes samedi pour choisir les gouverneurs et les députés. Depuis, le dépouillement est en cours. Selon les premiers résultats disponibles dimanche, l'état de Gombe dans le nord-est a été remporté par le parti au pouvoir APC. Des incidents ont été signalés dans certains États comme Rivers, dans le delta du Niger, riche en pétrole, alors que la CENI affirme que la sécurité de son personnel dans la région est menacée. Des manifestations ont eu lieu à Port Harcourt où certains habitants ont affirmé que des hommes portant des masques et des tenues militaires avaient envahi le centre de compilation de la CENI, perturbant ainsi le processus. L'État de Rivers est contrôlé par le PDP, le principal parti de l'opposition. La commission électorale a suspendu le processus dans cet État jusqu'à nouvel ordre. Selon le Centre pour la démocratie et le développement, une organisation de la société civile, les élections du 9 mars ont été caractérisées par une faible participation dans plusieurs États. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les Bissau-Guinéens ont voté hier pour élire leur Assemblée nationale avec l'espoir d'une sortie de l'interminable crise au sommet de l'État. C'est la première fois en plus de 20 ans que le pays achève une législature, Michel Joseph.
Quelques 760 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour un scrutin à la proportionnelle à un tour. Pour la première fois, un minimum de 36% de femmes candidates se sont présentées sur les listes des 21 partis en liste pour 102 sièges à pourvoir. Le chef de l'État, José Mario Vaz, a voté dans la matinée près de la présidence en rappelant l'instabilité chronique du pays depuis 1994.
À partir de cette date, nunca mais...
Il a dit que depuis cette date, aucun président n'avait atteint la fin de son mandat. C'est seulement aujourd'hui que ça arrive, sans mort, sans violence, sans coup d'État. Aucun incident n'était signalé en fin de journée. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures et l'armée a été mise en état d'alerte. Un succès du PAIGC pourrait conduire à une nouvelle confrontation entre le président et l'ancien premier ministre Domingo Simoes Pereira, limogé en 2015. Ce limogeage avait bloqué le Parlement pendant près de 2 ans.
L'armée et le peuple algérien partagent les mêmes valeurs et ont une vision commune de l'avenir, a assuré dimanche son chef d'état-major dans un discours apparemment plus conciliant que ceux prononcés depuis le début, le 22 février dernier, d'une contestation inédite contre le président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans et qui brigue donc un cinquième mandat le 18 avril prochain. Fin février, le général Gaïd Salah avait vu dans les appels à manifester, relayés sur les réseaux sociaux, je cite, des appels anonymes douteux, prétendument en faveur de la démocratie et visant à pousser les Algériens vers l'inconnu. Fin de citation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, l'assaut décisif contre l'ultime poche du groupe État islamique a repris. Les forces anti-djihadistes soutenues par une coalition internationale ont annoncé que le délai donné à ce groupe extrémiste pour sa capitulation avait expiré. Claire Morin-Gibourg.
Les forces démocratiques syriennes ont repris les combats pour déloger les derniers djihadistes retranchés dans un campement de fortune dans le village de Baghouz, a confirmé le porte-parole des FDS, Mustafa Bali.
Nos soldats ont commencé à se déployer à 18h dans le but de libérer Baghouz. Les chiffres varient et la situation est vraiment floue. Nous nous attendons à ce qu'il y ait encore entre 1000 et 1500 djihadistes à Baghouz.
Les FDS avaient suspendu leur offensive la semaine dernière pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Baghouz, dont des combattants djihadistes et leurs familles. Ce sont près de 60 000 personnes qui ont été évacuées de cette ultime poche djihadiste. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce corridor humanitaire qui a permis cette évacuation restera ouvert pendant les derniers combats.
Des garçons âgés de 8 à 16 ans ont été violés dans une ville assiégée du Yémen en guerre, a rapporté aujourd'hui l'ONG des défenses des droits de l'homme, Amnesty International, précisant que les suspects sont des miliciens. L'ONG a affirmé avoir recueilli des preuves faisant état de viol sur 3 garçons et d'une agression sexuelle sur un quatrième commis dans la ville de Taiz aux mains des forces pro-gouvernementales et assiégées par les rebelles houthis.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Tunisie, le gaspillage de denrées alimentaires s'élève à 189 millions de dollars chaque année. Selon Ecofin, le pain arrive en tête des produits alimentaires gaspillés avec 15,7% de l'enveloppe globale et 300 000 unités jetées chaque jour. d'où la nécessité de la promotion de la rationalisation de la consommation avec au cœur les mères de famille, dans la mesure où elles gèrent 80% des besoins alimentaires de leur foyer. Le président libérien George Weah a ordonné une enquête officielle sur la conduite en 2018 par son administration d'une opération de rachat de dollars libériens pour enrayer la chute de la monnaie nationale face au dollar américain. La Commission générale des audits est chargée de réaliser un rapport d'enquête sur la manière dont les 25 millions de dollars américains affectés à cette opération ont été dépensés. Pour terminer, l'autorité de régulation des marchés publics au Sénégal annule l'attribution au Français Suez du contrat provisoire pour la distribution de l'eau et la reprise de l'évaluation des offres, ce qui donne partiellement droit à sa concurrente, la Sénégalaise des eaux. Le comité de règlement des différends estime que le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, la partie contractante, a utilisé des critères non transparents pour recalculer le prix exploitant de l'offre de la SDE, rendant l'offre de cette société moins intéressante.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la cinquième journée de la Coupe de la Confédération et en premier qualifié pour les quarts de finale.
Oui, et il s'agit de Renaissance de Berkane. Les Marocains, faciles vainqueurs 3-0 de l'AS Otoho, sont même assurés de terminer en tête dans ce groupe. L'US Agadir prend la deuxième place après son nul 0-0 sur le terrain du Raja de Casablanca. Dans le groupe B, Salitas a été accroché à domicile par les Nigériens de Rangers Enugu, score un but partout. C'est le premier but inscrit par les Burkinabés dans cette compétition. Également leur quatrième nul en 5 matchs. L'autre rencontre du groupe a vu la victoire du CS Fassien 2-1 devant l'Étoile du Sahel.
Dans les groupes C et D, pas de qualifiés hier soir.
Mais il faut signaler deux bonnes opérations. D'abord, Nkana, vainqueur 3-0 du derby zambien face à Sesco United et nouveau leader du groupe C. Et puis, dans le groupe D, c'est le Zamalek du Caire qui prend les commandes après une victoire 4-0 sur les Kenyans de Gomaya.
Cinquième journée également en Ligue des Champions et déjà deux qualifiés pour les quarts de finale.
Il s'agit de l'Espérance de Tunis et de Mamelodi Sundowns. Les Tunisiens, champions d'Afrique en titre, ont battu les Guinéens de Roya 2-0. Cela leur suffit pour compter 11 points et d'assurer de terminer premier, quels que soient les résultats de la dernière journée. Et puis, les Sud-Africains ont aussi assuré leur qualification grâce à leur succès 3-0 face aux Nigériens de Lobi Stars dans la poule A. À 3 longueurs du leader, avec 7 points, on retrouve la SEC d'Abidjan et le Wydad de Casablanca. Les Ivoiriens ont battu les Marocains 2-0. Un des deux clubs décochera donc son ticket pour les quarts de finale lors de la dernière journée le week-end prochain.
Dans le groupe C, raté des Algériens du CS Constantine.
Ils pouvaient se qualifier. Un nul leur suffisait face aux Tunisiens du club africain. Mais le club de Tunis est venu gagner à Constantine 1-0. Tout se jouera donc lors de la dernière journée où le TP Mazembe aura aussi son mot à dire après son nul 1-1 en Égypte contre Ismaili. Et aucun qualifié aussi dans le groupe D. Tout se jouera également le week-end prochain. La mieux placée, c'est la JS Aoura en tête avec 8 points grâce à sa victoire 2-0 face aux Tanzanais de Simba, suivi d'Al Ahly et de l'ASV Club. Les Congolais se sont complètement relancés après le succès 1-0 face aux géants du Caire.
Des pelouses au parquet avec une autre compétition continentale, l'Africa Basket League. Les matchs du groupe B ont eu lieu à Cotonou au Bénin.
Et on connaît les deux qualifiés pour le tour final. Il s'agit de l'Étoile sportive de Rades et de BC Defender. Les Tunisiens ont réalisé un sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Et les Nigériens se sont qualifiés après avoir battu les Béninois d'Elan 62-58. Le tour final, l'élite 8, se jouera du 22 mars au 14 avril sous forme de match aller et retour. Et puis la NBA pour finir et avec vous Idrissa, les résultats des matchs joués la nuit dernière.
Détroit et Chicago 131 à 108, Toronto et Miami 125 à 104, Philadelphie et Indiana 106 à 89, Atlanta et la Nouvelle-Orléans 128 à 116, Memphis et Orlando 105 à 97, Houston et Dallas 94 à 93, Minnesota et New York 103 à 92, San Antonio et Milwaukee 121 à 114, Phoenix et Golden State Warriors 115 à 111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le gouvernement met en garde les acteurs politiques et acteurs de la société civile contre ce qu'il appelle les dérives susceptibles de porter atteinte aux institutions du pays. Dans une déclaration lue sur les antennes des médias publics proches du pouvoir, le porte-parole du gouvernement a annoncé sans ambages que force restera à la loi et que les fauteurs de troubles répondront de leurs actes. Un message qui fait suite aux incessants appels à la vacance du pouvoir de plusieurs acteurs de la société civile qui jugent le président Ali Bongo malade et dans l'incapacité de diriger le pays. De Libreville, compte rendu de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le gouvernement gabonais sort de sa réserve et s'en prend au groupe de pression qui, selon lui, menace la stabilité sociale par des propos désobligeants envers les autorités et des appels à la rébellion contre les institutions. Désormais, les acteurs politiques ou membres de la société civile, porteurs de discours idéologiques dans les églises, les hôpitaux et les marchés, auront à répondre de leurs actes devant la loi. Nanette Longa Makinda, porte-parole du gouvernement gabonais.
Le gouvernement rappelle, par ailleurs, que les lieux de culte, les marchés et les hôpitaux sont des lieux dédiés à des activités précises. De ce fait, ces lieux ne sauraient se transformer en tribunes pour les acteurs politiques. Aussi, tient-il à mettre fermement en garde les auteurs de ces actes qui sont de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale, et à les informer de ce que toute nouvelle dérive de cette nature exposeront leurs auteurs aux poursuites judiciaires prévues en la matière pour que force reste à la loi.
L'exécutif gabonais entend faire respecter l'état de droit par des mesures coercitives. En tout cas, cette sortie du gouvernement divise l'opinion publique à Libreville. Noël Mabika est enseignant.
Je crois que le gouvernement, par sa réaction, vient rappeler à tout un chacun que votre liberté à vous ne signifie pas tout dire. Il y a une nécessité de garder une certaine distance par rapport à certaines situations. Et il était quand même bien de rappeler à l'ordre un certain nombre d'acteurs politiques qui, effectivement, sur le dernier temps, se sont donnés à des déclarations qui ne sont pas très responsables.
Les membres de la nouvelle plateforme de la société civile gabonaise dénommée l'appel à agir se sentent visés par cette déclaration lue à la télévision nationale. Marc Onaes Sangui, l'un des coordonnateurs du mouvement.
Nous avons, à travers un mouvement, lancer un appel à agir. Et nous sommes dans ce processus-là et nous espérons que le Premier ministre à qui nous avons demandé une audience va nous recevoir pour qu'on lui dise en face exactement ce que nous voulons, c'est-à-dire il faut qu'il prenne ses responsabilités pour déclarer la vacance de pouvoir. L'audience a été introduite, c'est pas la peine de faire dans la diversion. Le communiqué du gouvernement ne concerne que, c'est peut-être dans le rêve. Nous, nous allons poursuivre notre activité.
Libreville, Ismaël Obiangze pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, la question des libertés publiques est au centre du débat dans le pays. Universitaires, politiques et activistes de la société civile s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de recul des libertés, surtout depuis le contentieux post-électoral lié à la présidentielle d'octobre 2018. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
On vous a déposé un courrier ici et vous passez outre, c'est ça, dans un état des droits.
Nous sommes dans les couloirs d'un hôtel à Yaoundé. Le sous-préfet du 5e arrondissement, accompagné des forces de l'ordre et des sécurités, veulent mettre un terme à un atelier organisé sur les libertés publiques au Cameroun. Motif, aucune autorisation n'a été accordée pour la tenue d'une telle rencontre. Une scène qui traduit dans la pratique la question de la liberté publique dans le pays. Cyril Roland Béchon, de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Nous croyons que ce sous-préfet devait participer à cette activité parce qu'il avait été officiellement invité. Il n'a pas fait le déplacement, mais il a cru devoir faire le déplacement pour venir intervenir. Comme on a besoin d'un minimum de consensus sur certaines questions clés, et parmi ces questions clés, les libertés publiques.
La vingtaine de personnes réunies à Yaoundé a néanmoins poursuivi les échanges, mais avec la présence des services de renseignement, de quoi inquiéter l'opposition camerounaise qui dit subir des restrictions de ses libertés. Adamou Mongat, militant de l'UDC, une des formations politiques de l'opposition.
C'est comme si le pouvoir était en train de regretter d'avoir consenti des espaces de liberté dans le cadre des dispositions législatives de décembre 1990.
Un avis que partage Roger Justin Noah du MRC. Également de l'opposition.
Nos marches du 26 janvier, nous avons fait les déclarations dans les délais prescrits par la loi. Et à aucun moment, on nous a servi une notification d'un arrêté d'interdiction d'autorité administrative. En nos domiciles élus, dans les différentes villes où nous avons marché.
Cette dernière affirmation n'est pas totalement vraie. Sur la base de documents administratifs dont VOA Afrique a obtenu copie avant les marches du 26 janvier dernier. Reste que l'application de certains points sur les libertés publiques pourtant inscrites dans la Constitution depuis décembre 1990 reste à clarifier au Cameroun. Docteur Agnès Makungum de l'Université de Yaoundé 2.
Les autorités administratives peuvent interpréter n'importe quelle situation qu'on est susceptible de troubler l'ordre public. Le législateur a quand même prévu qu'on puisse contester leurs actes, mais le juge préfère rester dans un simple contrôle de légalité. Il n'est pas tout à fait à son maximum pour mieux protéger les libertés publiques.
Depuis le 26 janvier 2019, toute manifestation publique des partis politiques est interdite, sauf dérogation spéciale. Le gouvernement ne semble pas du tout disposé à lâcher du laisse. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Les activités des partis politiques légalisés au Cameroun sont encadrées par les textes en vigueur qui seront désormais scrupuleusement respectés. Et la loi, dans le cas d'espèce, sera appliquée avec toute sa rigueur.
Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Mali a signalé en début de décrispation politique, le président Ibeka a déjà échangé 3 fois avec son challenger Soumaïla Cissé et a eu également des entretiens avec certains autres hommes politiques. Plusieurs rencontres ont été d'autre part notées entre les formations politiques et les acteurs de la société civile. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Depuis la présidentielle de juillet 2018, une crise politique s'est installée au Mali. L'opposition dirigée par Soumaïla Cissé contestait la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pour décrire que Ibeka a fait un geste.
Pour rapprocher les lignes, pour aller à l'autre, pour aller au frère qui n'a pu demeurer insensible à cela. J'eusse été en reste et de loin si je n'avais à mon tour fait le geste de votre confort. En prenant mon téléphone, et en appelant mon jeune frère Soumaïla, qui ne le croyait pas, qui m'avait un message pour authentifier. Il dit, bien sûr, je t'envie, c'est moi. Qu'est-ce que cela a d'extraordinaire? C'est le Mali.
Après ce coup de fil, les deux hommes se sont rencontrés au palais de Koulouba. Soumaïla Cissé explique.
Grande soirée de balayage. Quoi. Il fallait tout balayer, ne rien oublier, mettre tout dans les paniers, et qu'après, il faut puisse serrer les manières et que vraiment le cœur revienne aujourd'hui.
Cette décrispation politique est bien appréciée par l'ensemble des responsables des partis politiques. Chekna Camara, de la majorité présidentielle.
En tout cas, moi, je suis heureux et satisfait du fait que le président de la République a appelé, n'est-ce pas, alors le chef de file de l'opposition qui a accepté d'aller à sa rencontre. Et toutes les rencontres qui sont en cours aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Et chacun de nous, en ce qui le concerne individuellement et collectivement, doit soutenir cette dynamique-là. Ça, c'est ma perception.
À côté des rencontres et audiences du président avec la classe politique, plusieurs autres concertations sont en cours. C'est ainsi que les partis FAR et Irganda se sont rencontrés. Ousmane Issoufi Maïga, président de Irganda.
Nous avons eu une convergence de vues sur les grandes questions de notre pays. Nous avons échangé sur tous les problèmes qui assaillent notre pays. Et nous avions une vision partagée. Nous allons continuer ces discussions pour permettre à nos cadres de s'imprégner davantage et d'élargir ce débat inclusif avec d'autres associations, d'autres partis politiques et d'autres citoyens. Il faut que les Maliens s'y retrouvent et prennent ensemble, n'est-ce pas, les problèmes que d'autres personnes ne peuvent pas les gérer.
Après trois audiences avec le président de la République, Soumaïla Cissé croit à une issue favorable.
Cela passera certainement par le choix d'une personnalité qui va pouvoir aider à orienter, diriger les équipes pour pouvoir se parler franchement, en vérité, pour que nous sentions tous concernés par les difficultés qui assaillent le pays aujourd'hui. Nous avons échangé donc essentiellement sur ces aspects et nous avons parlé bien sûr aussi de la sous-région, des implications et de l'ensemble de la géopolitique autour de notre pays.
Les partis politiques de la majorité, tout comme de l'opposition, espèrent que le dossier avance, même s'il faut l'implication d'autres personnes et des institutions de la République afin d'aboutir à un cadre consensuel pour tous les Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Africa.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, 52% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. À noter à ce sujet que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a lancé la semaine dernière la campagne « Ne m'appelez pas madame » qui vise à accélérer l'abandon des mariages d'enfants. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le Burkina s'engage à lutter contre les mariages précoces des adolescents. Selon l'UNICEF, l'Agence de protection des droits des enfants, chaque deux secondes, une enfant est mariée dans le monde. Et au Burkina Faso, une femme sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans.
On est jeune, donc on ne peut pas nous marier d'abord.
Mireille Ouedraogo, une jeune élève.
Sans se marier tôt, on ne peut pas accomplir nos projets. Il faut d'abord étudier et bosser pour pouvoir améliorer notre vie. C'est pour ça qu'on dit non. Non, ne m'appelez pas madame.
Victoria Sinon est aussi une élève qui nourrit de grandes ambitions.
Je veux être un magistrat dans la vie, je veux finir mes études, être une femme indépendante. Donc je ne veux pas être donnée en mariage très tôt.
La première dame du Burkina soutient la campagne « Ne m'appelez pas madame » lancée depuis quelques jours. Plus aucune adolescente ne doit être mariée avant 18 ans. Sika Kabore.
C'est inadmissible. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de femmes formées pour être des actrices de développement demain. Pour être des femmes en bonne santé, épanouies, qui contribuent à sortir le Burkina Faso du sous-développement.
À travers cette campagne, l'ONG de défense des droits des enfants voulait poser le débat sur la nécessité que les adolescents doivent poursuivre leur cursus scolaire jusqu'à la majorité. Sarah Nkoli, responsable communication externe et plaidoyer à UNICEF Burkina.
L'objectif de la campagne « Ne m'appelez pas madame » est de sensibiliser, informer, susciter le débat et vraiment faire avancer la situation des adolescentes au Burkina Faso. Les adolescents ont droit à une vie sûre, une bonne santé, à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices, mais aussi une fois qu'elles sont devenues femmes.
Selon l'UNICEF, le Burkina Faso a le cinquième taux de prévalence du mariage des enfants le plus élevé au monde. Les âges médians les plus bas pour un premier mariage sont dans les régions du Sahel et de l'Est. Une étude menée en 2017 montre que la fin du mariage des enfants au Burkina Faso pourrait générer des revenus et une productivité de près de 90 milliards de francs CFA, soit 179 millions de dollars. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless.
Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.